des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillée dès le mardi 9 avril.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'air.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
C'est à peu près le pire cauchemar de quelqu'un qui fait une chirurgie esthétique. Vous avez sûrement vu passer cette information-là. Linda Evangelista, une des top modèles les plus connues à travers le monde, qui affirme qu'elle s'est fait défigurer après avoir subi une chirurgie plastique. Et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
Bonjour.
J'imagine que toi aussi, quand tu as lu ça, ça a dû te donner des frissons dans le dos.
Oui, oui, absolument, parce que bon, premièrement, elle veut dire quelque chose, tu sais, dans l'histoire des top modèles, tu sais, Linda Evangelista, c'était une beauté incroyable, là, et c'est quelqu'un qui a un carré, c'est quelqu'un qu'on a connu dans les années fin 80, 90, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, tu sais, on peut, Cindy Crawford est très active sur les réseaux sociaux, Naomi Campbell, tu sais, on voit les autres, mais c'est vrai qu'elle, ça fait cinq ans qu'elle s'est effacée, mais moi, ce qui est venu me chercher là-dedans, c'est qu'elle n'a pas eu une chirurgie invasive. Tu sais, parce que quand on a une chirurgie, on s'informe beaucoup de qu'est-ce qui peut se passer. Parce que souvent, l'anesthésie peut faire peur aussi. Il y a des risques à l'anesthésie. Puis quand on a, tu sais, quand on va aller enlever de la peau, peu importe, c'est sûr qu'on pose beaucoup de questions. Et je me demande, parce qu'elle, elle a eu ce qu'on appelle, c'est des soins non-évasifs, qu'elle a eu, le cold sculpting, là, parce que je veux pas démoniser ça parce qu'en fait, elle a eu un effet secondaire de ce qui peut arriver quand on arrive avec cette technique-là qui enlève les cellules graisseuses. Mais il reste que c'est des soins. Tu sais, t'es pas endormi. Je me demande, est-ce quand on arrive dans ces soins-là, les soins esthétiques non-invasifs, est-ce que ça se peut qu'on pose pas assez de questions? Parce que dans son
bonne
cas,
question.
Tu sais, je trouve qu'elle ouvre la porte à ça dans le sens que là, elle dit que ça fait cinq ans qu'elle ne sort plus, qu'elle vit en réclusion parce qu'elle est défigurée suite à ce traitement. Toutes les, tu sais, les effets secondaires possibles, malheureux, elle les a eus, mais elle dit que personne ne lui en a parlé avant. Et là, elle parle parce qu'elle a décidé de poursuivre ceux qui ont fait ce traitement-là. Mais elle ouvre la porte, je trouve, à des questionnements importants.
Oui, puis est-ce que tu te rappelles, il y a plusieurs années de ça, écoute, en 2004, Micheline Charret, la très connue fondatrice de Cynar, était décédée à l'hôpital. Écoute, elle s'était fait faire toute une panoplie de chirurgies esthétiques en même temps. Et je sais pas si tu te rappelles à cette époque-là, moi, quand j'avais vu cette nouvelle-là, je m'étais dit « jamais ». Jamais de la vie je ne me ferais faire une chirurgie esthétique. Parce que bon, tu sais, tu te regardes dans le miroir, moi je me regarde, regarde, j'ai les paupières tombantes, là, on se le cachera pas, là. Puis pendant des années, j'avais jonglé avec cette idée-là. Quand Micheline Charret est morte, ça a arrêté toute velléité, je me suis dit, jamais je passerais sous le bistouri. Et j'ai l'impression que cette histoire-là de Linda Evangelista, qui est un pétard, ça va refroidir beaucoup de gens qui vont se dire, regarde, même la plus petite opération, je n'irai pas là.
Oui, absolument, parce que des soins non-évasifs, là, moi j'en ai eu là, des traitements pour stimuler mon collagène. Là. Tu sais, c'est au laser. Tu sais, dans le sens, il te passe un laser, puis là, ben, c'est supposé stimuler le collagène. Puis j'ai quand même vu des légers résultats. Tu sais, ça n'a rien à voir avec une chirurgie. C'est juste que c'est comme c'est pour aider ce qu'il y a déjà. Mais dans le cold sculpting, écoute, moi, j'en ai parlé souvent là, dans mes émissions. Il y a des gens qui sont venus parler de cette technique-là. Je connais des gens qui ont eu recours à ça parce que ça, tu sais, tu peux te faire comme enlever du gras sans chirurgie, mais autour de la taille, les bras. Bon, je ne ferai pas la promotion de ça, mais ce que je veux dire, c'est très, très accessible et ça peut être très tentant aussi d'aller vers ces techniques-là parce que moi, j'ai comme l'impression quand tu n'es pas anesthésié puis tu n'es pas coupé, c'est moins grave. Sauf que là, je me dis « attention ». Faut peut-être lire les petites lignes en bas, les risques, parce que le prix à payer dans le cas de cette ex-top modèle-là, écoute, elle a plus de gagne-pain, hein, elle peut plus gagner sa vie. Elle est tombée en dépression.
Absolument.
Elle n'a plus elle a même un dégoût d'elle-même. Elle n'a plus aucune estime d'elle-même.
Écoute, elle dit la self-loathing, c'est de la haine de soi. Écoute, je trouve ça tellement triste, Marie-Claude, parce que tu te dis, bon, je veux dire, on se regarde dans le miroir, on peut dire, bon, j'ai tel défaut. Elle, cette fille-là, a été parmi les plus belles femmes du monde. Et tu dis, même elle ne se trouvait pas assez belle. Moi, c'est là-dessus que je veux t'entendre. C'est quand t'es rendu qu'une Linda Evangelista se regarde dans le miroir et trouve qu'il y a des choses à corriger, mais quel message ça envoie au reste de l'humanité qui est pas aussi belle qu'elle de se dire, ben qu'est-ce qu'il y avait comme qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Linda Evangelista, même sans savoir que ça aurait ce résultat-là, mais de se dire, je vais faire corriger des affaires. T'es parfaite, ma belle, pourquoi tu fais ça?
Mais c'est le regard qu'on pose sur nous avec les changements qu'apporte le temps. Et tu sais, elle a 55 ans, donc ça veut dire qu'elle a fait ces interventions-là, elle avait 50 ans. Souvent, on est post-ménopausé, ça peut arriver à 50 ans. Moi, je l'étais en tout cas à 50 ans. On ne produit plus de collagène et tu sais, ça descend. Là, la gravité fait son effet sur le corps. J'appellerais ça comme ça, la gravité est forte.
Oui. Hey, tu sais quoi? Oprah Winfrey, elle appelle tout ça « going south ». Everything is going south.
Ben, exactement. Ça, exactement. Le sud nous attire. C'est bien dit. J'aime bien ça. On est attiré vers le sud. Ouais. Mais c'est pas toujours facile à accepter, Sophie, parce que, justement, elle, dans le fond, sa beauté, c'était probablement, tu sais, ce qu'il y avait, c'est ce qui l'a fait connaître. Mais elle était plus qu'une beauté. C'est une personnalité. C'est une femme qui a du charisme. Elle fait partie de ces premières top modèles qui ont marqué, qui étaient dans les vidéos, qui ont participé à des
les
films.
Les Uber modèles, on les appelait. Les Uber.
Exactement.
Dans le temps où c'était pas une compagnie de taxi. Donc, ça voulait juste dire, ça voulait juste dire les tops, là. C'est ça. C'est là que ça a commencé.
Elle faisait partie de ça. Donc, j'imagine que quand tu te fais moins appeler, tu te fais moins regarder, peut-être que ça a pesé dans la balance. Mm-hmm. Puis en même temps, tu te dis, écoute, c'est un traitement quand même, c'est pas une chirurgie, ça m'apparaît moins pire. Mais oui, on peut se questionner pourquoi on a, tu sais, autant de misère à se regarder vieillir. Moi, je te dirais qu'il y a des matins, Sophie, je trouve ça assez difficile aussi, mais dans ce temps-là, j'arrête de me regarder. Tu sais, je veux dire, j'évite le miroir de ma voiture. Je trouve que c'est le pire au monde pour se regarder. Mais oui, ça fait réfléchir parce que tu dis, imagine, c'est une belle femme comme ça, recours à ça. Moi, à quoi je devrais avoir recours?
Mais,
tu sais, c'est
pour
aller
ça
là
que...
dans nos pensées.
Oui, puis écoute, moi, je suis plus vieille que toi. Moi, j'ai 55 ans, je suis en plein dans ma ménopause et je vais dire, c'est sûr, on est confronté à ça, au regard qui change. Moi, je vais dire, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Il faut que tu trouves en toi. Je sais que ça va sonner très nouvel âge ce matin.
Je t'écoute avec attention. Qu'est-ce que je dois trouver?
Ben, c'est-à-dire que il faut que tu le trouves en toi. Je veux dire, c'est en toi, puis c'est quelque chose que les femmes doivent apprendre, l'estime de soi, l'amour de soi. Et moi, je te dirais, ce qui me sauve, Marie-Claude, c'est mon chum qui, chaque matin, quand je me lève, et chaque soir, quand je me couche, et à plusieurs reprises pendant la journée, je pense que je vais lui acheter des lunettes, mais il me dit, Sophie, t'es la plus belle femme du monde. Je pense qu'on va se cotiser et on va acheter des lunettes à Martineau. Mais de s'entourer de gens qui nous valorisent Marie-Claude, pas de gens qui nous dévalorisent, mais surtout de le trouver à l'intérieur de soi.
Oui, puis je pense quand on est bien en dedans, là, sérieux, ça aussi, ça fait peut-être nouvel âge, mais il reste que quand tu es bien en dedans, ben tu finis par être bien à l'extérieur. Tu sais, l'extérieur, c'est un symptôme de d'autres choses. Tu sais, c'est pas vrai que tes rides font en sorte que tu peux pas vivre de façon épanouie. C'est que ça va pas bien en dedans. Parce que moi, j'aime bien des fois... Moi, mes rides, là, ce que j'aime de ça, là, c'est que c'est mes années d'expérience là-dedans. Mmh. On dirait que j'ai pas envie qu'on m'enlève des années. Moi, je veux pas qu'on me dise « Mon Dieu, t'as de l'air plus jeune que ton âge. » Non! Moi, j'ai 52 ans, puis c'est pas le 40 ans demain. Tu sais, 50 ans, c'est pas 40 ans, là. C'est 52 ans. Quand les gens me disent « Ben non, mais tu sais, maintenant, 52 ans, c'est comme le 40 ans. » Non, pas en tout. Non, non. Moi, je me sens pas comme à 40 ans. Je me sens comme à 52 ans, puis je trouve qu'il faut arrêter, justement, de toujours réduire l'âge parce que ça fait que on veut se rajeunir. Faut arrêter ça. Moi, je pense qu'on a l'âge qu'on a, puis je le répète, peut-être que je l'ai déjà dit au micro parce que je suis un peu fatigante avec ça. Il y a des gens, moi, que je connais qui sont décédés, hein, qui sont dans des columbariums, qui sont dans des cimetières, et je pense qu'ils reviendraient pas mal pour avoir des rides. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de rider. Moi, j'ai des amis qui sont décédés jeunes, et je peux te dire que des fois, quand je trouve ça dur, moi aussi, de vieillir, je me dis, Caroline, ou encore Yvon, ou encore un autre, rider, là, ben ça aurait dit qu'on est vivant. Parce que c'est ça aussi. Vieillir, c'est parce qu'on est vivant. Arrêter de vieillir, c'est parce qu'on est décédé. Oui. Alors, il y a pas de façon d'arrêter de vieillir, mais elle fait réfléchir parce que ces soins-là sont très faciles d'accès, sont coûteux, mais moins que des chirurgies. Donc, il faut vraiment s'informer des effets secondaires. Et je crois que ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est ça, c'est dire, hey, attention, moi, j'y suis allée en confiance et finalement, ma vie, présentement, ça va pas du tout, du tout. Je pense que, tu sais, tout le monde en parlait hier, hein, dans tous les pays, on parlait totalement de Linda Evangelista. C'était très marquant.
Oui. Alors, plus tard dans l'émission, je vais avoir une entrevue, justement, avec un chirurgien esthétique qui va pouvoir nous parler des avantages et des inconvénients et des risques de cette chirurgie-là. Oui. Je veux juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, c'est Evelyne, écoute, ma cousine, qui était plus âgée que moi, elle est morte à 48 ans d'un cancer généralisé. Écoute, elle a eu son diagnostic à Noël, elle est morte en mai, et chaque fois que je me dis « Ah, ben là, j'ai des cheveux blancs, ah, oh, ben là, je commence à avoir un bourrelet, ah, oh, je commence à avoir ci », ben je pense à Evelyne en me disant « Ben, pendant qu'elle elle est 6 pieds sous terre, ben moi, je suis bien vivante et je dois vivre avec avec tout ce qui... » C'est le fun, en fait, de continuer à grandir et de continuer à être les deux pieds sur terre plutôt que d'être 6 pieds sous terre. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Écoute, Marie-Claude, je veux qu'on prenne du temps pour parler de la manifestation d'aujourd'hui, donc des jeunes qui font la grève, qui vont pas à l'école et qui marchent pour le climat. Je suis ambivalente en général avec ce genre de truc-là, parce que ce genre de manifestation-là, parce que je trouve que les jeunes, c'est bien le fun, OK, on descend dans la rue, on défend l'environnement, puis en même temps, les jeunes fument, les jeunes ont plein de... Tu sais, ils sont tous là avec leur iPhone, toutes sortes de trucs qui sont tout à fait néfastes pour l'environnement. Je me demande des fois à quoi ça sert ce genre de journée-là.
Ben OK, moi aussi là, ces marches là, je suis tout le temps comme ben qu'est-ce que ça donne? Tu sais que je me pose beaucoup les questions, puis quand ils font des vox populi, il y en a plusieurs qui savent pas tant pourquoi ils marchent. Puis après ça, je me suis dit OK, une minute. Mettons moi j'ai 20 ans là, parce que c'est sûr que l'environnement, le climat, ça préoccupe, mais moi ça me préoccupe beaucoup, et ça préoccupe beaucoup les générations qui viennent après, parce qu'ils vont dire mais qu'est-ce qui va nous rester de cette planète, et les messages sont alarmants. Tu sais, quand on écoute, il faut pas arriver à l'emballement du climat, parce que là ça va pas aller du tout, le réchauffement va s'accélérer, puis bon, on nous dit on est dans ce processus là. Hier on voyait qu'à l'ONU, c'était vraiment le sujet, le climat, et il y a une impasse parce que la Russie puis la Chine disent non, nous autres, on n'a pas envie de... Parce qu'on parle de sécurité parce qu'on doit déplacer des gens à cause du réchauffement de la planète. Mais même, tu vois, ça commence, ça fait longtemps, mais on sent que ça s'accélère, il devra y avoir des ententes. Alors, pour revenir à la marche, moi, mettons que je suis pas cynique, admettons que je suis positive, ce que je trouve beau quand même, c'est de se rassembler pour une cause, de sentir que, parce que c'est très anxiogène, hein, tu sais, l'éco-anxiété, ça existe, et puis pour arrêter l'anxiété, ça prend des actions. Et une marche, c'est une action. Alors, de se mettre en marche, pour ceux pour qui la cause, ils vont pas là juste pour marcher, puis il y en a beaucoup qui vont là pour la cause. Alors, ces jeunes-là qui vont pour la cause, et de savoir qu'ils sont pas seuls, et de se dire, ben écoute, peut-être que quelqu'un va nous entendre. Pour plusieurs, ça calme les esprits et ça va peut-être aussi leur donner le goût de s'engager de façon encore plus concrète. Parce que une marche, c'est un moyen de se faire entendre. Mais il faut d'abord aussi savoir qu'est-ce qu'on veut faire entendre, à qui on adresse qu'on veut faire entendre, écrire des propositions. C'est beaucoup de choses qui amènent à une marche. Alors, je me dis, si ça peut stimuler des jeunes. Puis moi, finalement, quand je regarde les images de la marche, moi, je trouve ça beau. Des gens qui se rassemblent pacifiquement pour une cause. Et ils ont raison de sonner l'alarme parce que ça va pas du tout présentement sur la planète. Écoute, tout ce qu'on lit comme statistiques,
ah non, c'est
ça
sûr.
Ça va pas. Et c'est ça, tu sais, je pense qu'à l'époque, il y avait la souveraineté pour les jeunes, mais aujourd'hui, les marches, c'est pour le climat. Donc, c'est très altruiste aussi. C'est pour dire, hey, on est là, on veut vivre dans un endroit qui sera sain et en même temps, on doit tout faire un effort. Donc, finalement, je te dirais que la marche, je trouve que pour moi, elle prend beaucoup plus de sens, surtout en pandémie. On dirait qu'il n'y en a pas de rassemblement. Nos jeunes se sentent très, très isolés au cours des derniers mois. Alors, de leur donner un répit, de dire ensemble et d'avoir l'impression de peut-être changer quelque chose, ça fait du bien. C'est sûr, ouais, que ça leur fait
alors,
du bien.
Alors, tu disais que c'est important de se rassembler pour se faire entendre. Juste pour finir sur une note hyper cynique et hyper sarcastique, on a un ministre de l'Environnement au Québec, il s'appelle Benoît Charrette.
Ouais.
Ben, il était à la marche en septembre 2019 et il n'est pas à la marche aujourd'hui.
Je le sais.
Absolument
mais ça,
hallucinant.
Moi, je ne comprends pas quel engagement il pouvait avoir parce qu'il disait qu'il y avait un autre engagement.
Oui, oui. Il est occupé.
Était plus important que la marche et surtout avec nos jeunes pour leur donner de l'espoir.
Ben écoute, c'est comme Obélix, tu sais, Obélix, il y a toujours un sanglier sur le feu là. Ben je pense que c'est le ministre Charrette, il y avait un sanglier sur le feu. Hey, merci beaucoup Marie-Claude. Bonne fin de semaine puis on se retrouve lundi.
À lundi, bye bye.